Bonjour à tous. Tout de suite, pour pas qu'il y ait de malentendu, c'est une chance que tu l'aies formulé comme ça. Effectivement, on va ouvrir ensemble l'évangile de Jean, mais pas dans le cadre que tu sous-entendais. C'est-à-dire que, alors pour ceux qui ne le sauraient pas, nous sommes en train, en tant qu'Église, d'étudier systématiquement l'évangile de Jean, chapitre par chapitre. Il y a des gens très compétents qui s'occupent de ça. Et il se trouve que ce matin, ça devait être l'un des intervenants de cette étude continue qui devait s'adresser à vous, ce qu'il n'a pas pu faire pour des raisons personnelles. Et donc, je le remplace autant que faire se peut. Mais par contre, je lui laisse bien sûr son sujet sur lequel il a sans doute déjà travaillé. Et donc, moi, je vais aborder autre chose. Mais il se trouve qu'effectivement, cette autre chose est aussi dans l'évangile de Jean. Alors, justement, ce serait très maladroit de ma part de couper l'herbe sous le pied, puisque c'est un épisode qui se situe après les passages qu'on est en train d'étudier en ce moment. Donc, ce serait un très mauvais service que je rendrais à l'un quelconque d'entre nous si j'abordais une étude systématique d'un chapitre de Jean. Ça n'est pas ce que je vais faire, et donc celui qui étudiera le chapitre qu'on va ouvrir ce matin ensemble aura de toute façon toute sa matière intacte, puisque, alors pour tout vous dire, l'épisode que j'ai choisi d'aborder, c'est le dernier entretien de Jésus avec ses disciples, c'est-à-dire ce qui se situe un tout petit peu avant le moment que Tahar a évoqué ce matin, c'est-à-dire les trois jours entre la mort de Jésus et sa résurrection. Là, on est juste un peu avant, on est avant son arrestation. On est avant son arrestation, et donc, avant son arrestation, il va, vous le savez, prendre un dernier repas avec ses disciples, repas au cours duquel il va leur dire des choses plus que surprenantes, mais ça aussi, je laisse à ceux qui sont en charge de ça le soin de l'étudier et de l'expliquer. Il va non seulement dire, mais faire des choses surprenantes, comme par exemple leur laver les pieds, alors qu'il est reconnu par eux comme étant le maître, et il va avoir un comportement d'esclave. Et puis surtout, après avoir fait tout ça va leur paraître très énigmatique. Nous, on sait parce qu'on connaît la suite, on connaît globalement, encore que, le sens de toutes ces paroles, de tous ces gestes. Mais eux sont allés pendant cet épisode-là de surprise en surprise. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il fait? Et les trois jours que Tahar évoquait tout à l'heure, ça va être aussi pour eux une période d'intense réflexion. Il nous a dit tout ça, il a fait tout ça, on n'a pas compris grand-chose, et en plus il est mort maintenant. Bon. Et donc on fait quoi? Et parmi les choses presque anodines, ça passe presque inaperçu sur le moment, qu'il va faire, il va s'adresser en particulier à un des 12 qu'il a choisi pour lui dire quelque chose de, encore une fois, très anodin. Ce que tu as à faire, dépêche-toi de le faire. Ça a pris 3 secondes. Et les autres ont vu le gars sortir. Et ils se sont dit, c'est le texte qui nous le rapporte, on ne sait pas ce qu'il va faire. On n'est pas au courant. Jésus lui a donné un truc à faire, apparemment, et il lui a dit de se dépêcher de le faire, et on ne sait pas ce que c'est. Bon, nous, on sait ce que c'est. Et on sait que Jésus, en disant à Judas, puisque c'est évidemment de lui qu'il s'agit, ce que tu as à faire, dépêche-toi de le faire, il a choisi d'écourter le moment qui reste. Parce que Judas va s'exécuter, c'est-à-dire Judas va se dépêcher sur l'ordre de Jésus, de provoquer son arrestation. Alors que Jésus aurait très bien pu lui dire « Prends ton temps, parce que j'ai encore des choses à dire, j'ai encore des choses à faire. À la limite, donne-moi 24 heures de plus. fait en sorte que ce qui doit arriver arrive le plus tard possible. Il dit l'inverse. Et il provoque la concentration de ce moment qui reste. Moment où il a encore des choses à dire et des choses essentielles à dire. Parce que tout ce moment-là, pratiquement, il va le passer à parler à ses disciples. Pour leur dire évidemment des choses capitales. Et donc ça, je le laisse étudier par ceux qui l'ont en charge. Moi, je voudrais constater que dans ce moment-là, dans ce discours-là, Jésus va être interrompu 4 fois. 4 fois par 4 disciples, à chaque fois un disciple différent va l'interrompre. Donc, on parle du discours. Moi, j'aime bien le titre qui est dans cette Bible, qui dit « l'entretien suprême ». C'est vrai que c'est un entretien parce que, à certains moments, ça va prendre la forme d'un dialogue. Mettons-nous 2 secondes à la place de Jésus. Enfin, moi, si je me mets 2 secondes, enfin, moi, vous connaissez ma tendance à monopoliser la parole. Si je suis à la place de Jésus, je dis à mes disciples, bon, alors maintenant, j'ai des choses essentielles à vous dire. J'ai plus beaucoup de temps. Le temps qui nous reste à passer ensemble se compte en heures et peut-être même en minutes. Donc vous êtes gentils, pour une fois, vous me laissez parler. Vous ne m'interrompez pas. Ce n'est pas ce que fait Jésus. Jésus se laisse interrompre. Et pourquoi est-ce qu'il se laisse interrompre? Parce que, en étant interrompu par des disciples qui lui parlent à cœur ouvert, puisque ce qui est extraordinaire dans cette relation entre Jésus et ses disciples, je vous rappelle que nous aussi on est des disciples, là je ne parle pas des 12, je parle des relations entre Jésus et ses disciples, c'est-à-dire entre Jésus et moi, entre Jésus et vous, entre Jésus et tous ceux qui sont ses disciples. Ce qui est extraordinaire, c'est que, évidemment, c'est le Seigneur, mais il n'y a pas de distance malgré ça. On lui parle comme à un ami. Et il l'accepte. Il n'est pas ce Dieu distant, écrasant, qu'Israël avait pu pouvoir qualifier en disant, on a un Dieu, alors il est ultra puissant, tout puissant, ultra distant, totalement distant. La contrepartie, c'est que on lui parle pas comme à un pote, quoi. D'abord, on lui parle pas du tout. On n'ose même pas prononcer son nom. Le nom qu'il nous a donné, on l'a remplacé par un mot beaucoup plus anodin, parce qu'on n'ose pas le dire, on n'ose pas l'écrire, tellement c'est flippant. Jésus n'a pas du tout cette relation-là avec ses disciples. Il n'a pas du tout cette relation-là avec moi. Non pas que je mérite d'être à son niveau, mais il se met au mien. Et si j'ai des choses à lui dire, je peux lui dire simplement. Et il ne me dit pas, s'il y en a un des deux qui a droit à la parole, c'est moi, donc ferme-la. Il m'écoute. Il m'écoute et il me répond, et là, dans ces moments ultimes, dans ces moments qui, encore une fois, sont comptés, il va laisser ses disciples parler, parce qu'il sait aussi, et ça évidemment il le maîtrise, il sait aussi que ce que vont lui dire les disciples à ce moment-là, ça va lui permettre de développer une pédagogie sur des choses essentielles aussi. Et des choses essentielles qu'il ne va pas leur apprendre dans le cadre d'un discours, mais dans le cadre d'un dialogue. Parce qu'il est aussi pédagogue dans le dialogue que dans le discours, évidemment. Et donc, ce sont ces 4 petits points, et c'est pour ça que je dis, dans l'étude systématique de l'évangile de Jean, il y aura de toute façon de la matière, parce qu'il y a tout le reste du discours à étudier. Donc, à la vôtre, hein, pour ceux qui vont faire le boulot. Il y aura de la matière. Donc là, je ne je ne vole le travail de personne. Je m'attaque simplement, enfin, j'évoque simplement, on ne va pas y passer 2 heures non plus, j'évoque simplement les 4 interventions des 4 disciples qui, pendant le discours, on va dire, pendant l'enseignement de Jésus, se sont autorisés à lui dire « Non mais attends, là, il y a un truc, je voudrais comprendre. » Alors, le premier, ça ne vous étonnera pas, c'est Pierre. Parce que, je pense que beaucoup ici connaissent la personnalité de Pierre. Quand il y en a un qui l'ouvre avant les autres, c'est forcément lui. Donc là, ça ne manque pas, c'est Pierre. Alors, Jésus vient de dire quelque chose d'essentiel, mais chaque phrase de Jésus, à partir du moment où Judas quitte la pièce, chaque phrase de Jésus mérite des années d'études, on est bien d'accord. Donc là, Jésus va faire quelque chose. Encore une fois, j'essaye de me garder d'aborder les paroles de Jésus et d'aborder les paroles des autres, mais il y a quand même quelque chose de colossal. C'est que si vous avez lu l'Ancien Testament, vous savez avec quelle solennité Dieu a donné au peuple d'Israël ses commandements. Et encore une fois, le Dieu dont on n'ose ni écrire ni prononcer le nom, il a choisi un peuple et avec une mise en scène, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire quelque chose qui a donné à l'événement une solennité inouïe, c'est-à-dire la montagne, Moïse, il a donné des commandements. Dieu dit à son peuple, voilà ce que je vous commande. Et Jésus vient de dire la même chose. Dieu avait donné 10 commandements, et Jésus dit, moi je vous en donne un autre. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Alors Pierre, Seigneur, où vas-tu ? Et Jésus lui répond, là où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, répond Pierre, pourquoi est-ce que je ne peux pas te suivre tout de suite ? Je me dessaisirai de ma vie pour toi. Jésus lui répond, te dessaisir de ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, 3 fois tu m'auras renié avant qu'un coq ne se mette à chanter. Alors, on connaît tous cet échange entre Jésus et Pierre. Tu ne peux pas me suivre tout de suite. Comment ça, je ne peux pas te suivre tout de suite ? Attends. Moi, Pierre, avec mon frangin, il y a quelques années, sur le bateau, on a bien été les premiers à t'entendre dire « Suis-moi ». Et on a bien été les premiers à décider de le faire. Suivre Jésus, ça se décide. Quand tu nous as dit « Suis-moi », tu ne nous as pas mis un revolver sur la tempe. On a eu le choix. On a choisi. On a décidé. Donc, qu'est-ce que tu viens de dire, là ? Tu ne peux pas me suivre. Ça fait pratiquement 3 ans qu'on te suit. Et que moi, je te suis. Eh bien, moi, je te dis, j'ai décidé de te suivre, et aujourd'hui, je n'ai pas changé d'avis. Donc, je vais continuer à te suivre. C'est quoi cette histoire de « tu peux plus » ? Je peux parce que je l'ai décidé. Comme depuis 3 ans. Réponse de Jésus, mon pauvre Pierre. Mais, je pourrais mettre mon prénom à la place de Pierre. Parce que il y a des tas de moments où, même si je m'en défends, je pense que si je suis disciple de Jésus, c'est parce que je l'ai décidé, c'est parce que j'ai fait un choix, et parce que ce choix est totalement libre. Ça dépend de moi. Je ne sais pas si certains d'entre vous regardent les films américains en VO, en version originale, pardon. Il y a une phrase assez récurrente dans les... Il y a toujours plus ou moins un dialogue entre des gens qui croient et des gens qui ne croient pas. Et les gens qui croient disent... Il y a cette formule en anglais. C'est ce que j'ai choisi de croire. Quand il y a un scientifique matérialiste qui dit mais tu crois à ces choses-là dans les films de science-fiction, par exemple. Mais tu crois qu'il y a quelque chose au-delà de... Hein? Réponse, c'est ce que j'ai choisi de croire. Ça révèle bien que... qu'on a, j'allais dire conscience, en tout cas qu'on a le sentiment d'avoir décidé de ça. On a décidé d'être des disciples. Et Pierre, là, il dit à Jésus, souviens-toi de ce qui s'est passé au début, tu m'as proposé de te suivre, pas forcé. J'ai décidé que oui, j'allais te suivre. Et donc aujourd'hui, je décide que je vais te suivre. Donc pourquoi tu dis que je ne peux pas ? Et Jésus, en lui disant, tu vas voir. Tu vas voir que le fait de me suivre, c'est-à-dire le fait d'être mon disciple, puisque c'est ça, le suivre, le fait d'être mon disciple, ça mélange deux ingrédients, la volonté et la capacité. La volonté, elle vient de toi, d'accord. Mais la capacité, d'où crois-tu qu'elle vient ? Pierre, tu me suis depuis 3 ans, parce que depuis 3 ans, tous les matins, je te donne pour la journée la capacité de me suivre. Parce que, effectivement, j'ai décidé que tu pouvais me suivre, donc tu me suis. Mais aujourd'hui, pour une raison, alors nous on sait pour une raison évidente, parce qu'il faut bien sûr que Jésus précède ceux qui lui appartiennent dans la mort. Sinon, si on y va tous ensemble avec lui, on y reste. Il aurait pu dire ça à Pierre, mais c'était de la théologie un peu fine. Si tu viens avec moi dans la mort en même temps que moi, mais tu vas y rester dans la mort, mon coco. Faut que je ressuscite d'abord. C'est moi le premier qui doit passer. Sinon, la porte, elle ne s'ouvre pas. Donc là, je passe en premier. Et on ne passe pas tous ensemble. Ça, ce n'est pas possible. Mais pour l'instant, ce que Jésus se contente de dire à Pierre, c'est « Si je ne te donne pas la capacité de me suivre, tu ne me suivras pas un jour de plus. Tu ne me suivras pas 3 heures de plus. Au premier obstacle, tu vas t'arrêter. » Et ça, c'est une leçon que je prends pour moi. Le libre arbitre, comme on l'appelle, dans la relation avec Jésus, ça ne fait pas tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous le suivons imparfaitement, bien sûr. Enfin, je ne sais pas vous, moi, imparfaitement, très imparfaitement. J'essaye de le suivre. Mais le peu de capacité que j'ai à le suivre, à être son disciple, elle me vient de lui, elle ne vient pas de moi. Suivre Jésus, c'est pas dire tous les matins, je vais parcourir 100 mètres. Parce que ça, c'est à ma portée, j'ai besoin de personne. Suivre Jésus, c'est dire tous les matins, je vais parcourir 100 mètres en moins de 5 secondes. Pourquoi en moins de 5 secondes ? C'est très simple. Parce que c'est pas une question, alors vu mon âge et mon poids, d'accord. Bon, de toute façon, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais le meilleur être humain dans ce domaine, il mettra forcément plus de 5 secondes. Le record du monde du 100 mètres doit être un tout petit peu moins de 10 secondes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je décide tous les matins que dans la journée, je vais parcourir 100 mètres en moins de 5 secondes, il faut que quelqu'un me prête une moto tous les jours. Et là, si quelqu'un me prête une moto tous les jours, c'est les doigts dans le nez. Alors là, 100 mètres en moto en moins de 5 secondes, c'est à la portée de n'importe qui, même sans casque, je vous le fais, moi. La relation avec Jésus, je vous dis ça de manière un peu débile, je l'admets, mais la relation avec Jésus, c'est ça. Le jour où ils ne nous prêtent pas la moto, ben, on peut transpirer, on peut s'entraîner, on peut... On ne tombera pas sous la barre des 5 secondes. Et on n'a pas les ressources, on n'a pas un garage avec une Lamborghini, rien. On est nu dans ce domaine. Pour faire ce qu'il nous demande de faire en tant que disciple, on est à poil. Rien. Et donc la capacité, elle vient de lui. Donc tous les matins, je te prête une moto. Et le jour où je ne te la prête pas, tu t'aperçois que tu ne peux pas. Pierre, le jour où je ne te donne pas la capacité de me suivre, le jour où je ne te donne pas la force d'être mon disciple, tu vas t'apercevoir que quand on va te poser la question toute bête, est-ce que tu es avec lui ? Tu vas tellement te... J'allais dire quelque chose qu'on ne dit pas dans ce genre d'enceinte, mais tu vas tellement avoir peur, vous voyez ce que je veux dire, que tu vas dire non. Alors, le problème qui est posé là, enfin la problématique, c'est rien moins que le problème de la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté ? La liberté, c'est la liberté de faire ce qu'on a la capacité de faire. C'est pour ça que le message biblique nous donne des phrases aussi fortes que si le Fils de l'homme vous rend libre au sens de la libération de l'esclave, dans les traductions classiques, vous affranchit. C'est-à-dire qu'on ne l'est pas au départ. C'est-à-dire, la phrase est construite de telle manière que on nous dit au départ, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre, vous êtes dans la condition d'esclave. Et si il nous fait sortir de cette condition, là et là seulement, on sera vraiment libre. C'est-à-dire, le suivre, ou pour reprendre mon exemple bête, ma décision, je n'ai pas la liberté, de décider que chaque jour de ma vie, je vais parcourir 100 mètres en moins de 5 secondes. Je n'ai pas cette liberté si quelqu'un ne m'en donne pas la capacité. Eh bien, c'est pareil pour être son disciple, c'est pareil pour le suivre. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire l'être humain dans lequel le Seigneur a mis son esprit, là est la liberté. C'est dans 2 Corinthiens. Là, il y a des phrases partout. Il y en a une qui m'a bien plu. Bon, je pourrais multiplier les citations, mais je ne vais pas non plus y passer la journée. Je suis désolé. Mais de toute façon, si je n'ai pas fini, je m'arrête et puis on se reverra une autre fois. Vous reviendrez. Moi aussi, sans doute. Non, il y en a une qui me plaît bien parmi toutes les citations. Alors évidemment, je vous assure que dans l'original, c'est une phrase très forte. Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 1er, c'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés. C'est-à-dire que la liberté illusoire, ça existe. Quand la Bible nous dit c'est pour qu'on soit vraiment libre. Oui, mais c'est plus que ça dans le grec. C'est pour qu'on soit vraiment libre, c'est-à-dire, c'est pas pour qu'on ait l'illusion de la liberté, ou du libre arbitre, ou d'un choix qui ne dépend pas de nous, mais de la capacité qu'il nous donne. Et alors, effectivement, à partir du moment où il nous la donne, cette capacité, mais moi, vous me donnez une moto, pas forcément la plus puissante du monde, mais je ne transpire pas une seule goutte pour faire mes 100 mètres en moins de 5 secondes. Et s'il nous rend capable, là, ça va tout seul. Là, c'est simple. C'est simple, et du coup, on croirait presque qu'on est doué. Et on oublierait presque que c'est grâce à lui. D'où l'importance, avant de partir, qu'il nous dise « Eh, perds pas de vue que si quelqu'un a droit à une médaille, c'est pas toi. ça fait, attendez, je parle de moi là, ouais, bientôt 40 ans qu'on se connaît, lui et moi. Je pourrais dire quand même, c'est pas de la persévérance, ça. Mais persévérance grâce à qui? Grâce à lui. Grâce à sa fidélité à lui, ça fait 40 ans pratiquement qu'il me donne tous les jours la capacité de le suivre. Alors, quand on a affaire à un individu comme moi, je peux vous dire, c'est de la patience. Mais moi, j'y suis pour rien. Et si demain matin, il me dit « basta, je veux plus que tu me suives », eh bien, c'est fini. Comme Pierre, qui la ramène avec sa grande bouche. « Ah, mais moi, j'ai décidé, donc je suis prêt à mourir pour toi. » Et alors, pour que la démonstration soit complète, alors Jésus va d'abord lui dire, écoute, on va voir si sans mon aide, tu es prêt à mourir pour moi. Ça va être vite vu, hein. Premier qui va te poser la question. Bon, mais là où la démonstration est quand même parfaite, c'est que Jésus, après, donnera à Pierre la capacité de le suivre jusque dans la mort. Mais au moment seulement, alors effectivement, pas en même temps que Jésus, parce que pour la raison, j'allais dire théologique que j'indiquais tout à l'heure, on ne peut pas arriver dans la mort en même temps que lui. S'il ne nous précède pas dans la mort, il ne peut pas, enfin plutôt, on ne peut pas le suivre dans la résurrection. Ça, c'est, j'allais dire, c'est technique. Mais surtout, au moment où Pierre saura que s'il est capable de mourir pour son maître, ça n'est pas parce qu'il a une volonté d'airain, c'est simplement parce que son maître lui en donne la capacité. Sinon, eh ben on est dans ce que Paul, le théoricien, analyse au tout début de la lettre aux Romains, c'est-à-dire, c'est pas la bonne volonté qui me manque. Ah ça, vouloir faire des bonnes choses, je suis au top. Vouloir le bien, puis moi pareil, là je me reconnais, mais alors, un max. Moi je ne veux de mal à perdre, enfin je veux dire, aimer les autres, enfin vouloir me lever le matin en me disant qu'est-ce qu'ils sont bien, mes semblables, et quand je me couche le soir, je me dis, bah finalement ils ne sont pas si semblables que ça. Mais la bonne volonté, ah mais à l'appel, la capacité, et Paul dit, moi je veux faire le bien, je ne suis pas un individu fondamentalement pervers, méchant, je ne me lève pas le matin en disant comment je vais pouvoir pourrir la vie de ceux qui m'entourent. Non, simplement, dit, enfin vous connaissez le texte, je ne vais pas le lire, Paul dit, je constate qu'il y a une loi terrible qui s'applique quand je ne suis pas disciple du Christ, c'est que je veux faire le bien et je fais le contraire. Je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire et je fais le mal avec une facilité, alors là, déconcertante, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. C'est ça la loi de la condition humaine. Et donc ça, dans la bouche, ou plutôt sous la plume de Paul, ça veut dire... Ne me parlez pas de liberté. La condition humaine, en dehors de la capacité que nous donne Jésus à le suivre, à être son disciple, c'est une aliénation absolue. Je fais le contraire de ce que je voudrais faire. C'est de la liberté, ça ? Ben non, c'est pas de la liberté. C'est le contraire de la liberté. Et donc, ce qui est nécessaire comme prise de conscience ultime chez Pierre, en l'occurrence, mais ça va servir de leçon à tous les disciples, c'est que, avec l'invitation, il y a le don de la capacité. Suis-moi, il y a forcément à entendre en même temps, je te donne la capacité de me suivre. Le message ultime de la bonne nouvelle, changer, mais C'est pas la fin de la phrase, vous le savez. Enfin, convertissez-vous. Bon. Changer, en grec. Changer profondément. Hein. Changer l'intérieur, pas changer l'extérieur. Changer l'extérieur, c'est, puisqu'on a les mêmes mots en français qu'en grec, changer l'extérieur, c'est métamorphose. Là, on est métamorphose, c'est-à-dire changer la forme, changer l'extérieur. Là, le mot grec, vous le savez, enfin, tout le monde le sait, enfin, tous les chrétiens le savent, c'est métanoïa, c'est-à-dire changer l'intérieur. Bon, mais changer, ouais, c'est en même temps, je vous donne la capacité de changer. Autre exemple, si je finis pas, c'est pas grave, je m'arrêterai. Hein. Autre exemple, le fameux épisode de, qu'on appelle communément la femme adultère. Vous connaissez l'histoire, hein ? On amène la femme dans le temple, prise en flagrant délit d'adultère, puis, flagrant délit, c'est pas un délit en l'occurrence, c'est un crime, puisque puni d'une mort atroce, parce que la crucifixion, c'est pas terrible, la lapidation, à la vôtre aussi, hein, parce qu'on meurt dans d'atroces souffrances. Lapider, ça veut dire se prendre des cailloux jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous imaginez, ça peut prendre du temps. Hein. Alors vous me direz, selon la taille des cailloux et selon l'endroit où on se les prend, ça peut aller plus ou moins vite. Mais c'est horrible comme mort. Horrible. Donc, au-delà, parce que la Bible, c'est des vérités. C'est la vérité, mais c'est aussi des vérités. C'est pas des petites histoires pour les enfants, c'est pas des contes pour enfants, pas les contes de Grimm. Hein. Donc cette femme qui a couché avec un autre homme, vous imaginez que, alors, pour présenter les choses autrement, moi, les choses que je fais en sachant que ça pourrait me valoir une mort atroce, il n'y en a pas beaucoup. Réfléchissez-y deux secondes. Qu'est-ce que vous acceptez de faire en vous disant « je prends le risque de mourir dans d'atroces souffrances » ? Moi, si j'y réfléchis, je dirais peut-être faire un geste qui pourrait sauver mes enfants, par exemple. Par exemple. Et encore, il ne faut pas que je réfléchisse trop longtemps. Mais pour qu'on accepte de faire quelque chose qui nous fait prendre le risque de mourir dans d'atroces souffrances, il faut être sacrément motivé. Ça veut dire que, on va se parler franchement, la passion de cette femme pour son amant, c'est quelque chose de très fort. Parce que, et là encore une fois, ce n'est pas des histoires. Quand elle est dans son lit, elle sait que si, et la preuve, que si elle se fait prendre, ben elle va mourir d'une manière atroce. C'est donc vachement puissant comme passion. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que si Jésus, qui à la fin de l'épisode lui dit « ne pêche plus », il ne lui donne pas, avec l'invitation à ne plus pécher, la capacité de ne plus. Ben, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas pour deux raisons. D'abord parce que la passion qui est terriblement forte va rester intacte. Et puis surtout parce que vous me direz, oui, mais elle aura eu tellement peur de se faire lapider que ça lui servira de leçon. Pas du tout. Pas du tout, pour une raison simple. C'est que maintenant, elle a la phrase magique. C'est beaucoup moins risqué qu'avant, parce que maintenant, elle n'a plus besoin de Jésus. Si elle se fait reprendre en cas de récidive, ben, et c'est ce qu'il faut dire, allez-y, que celui qui est sans péché me jette la première pierre. Elle sait que ça marche. Donc elle ne risque plus grand-chose, en tout cas. En tout cas, le risque est moindre. Et donc, quand Jésus lui dit « ne pêche plus », ça veut dire aussi, et c'est ça qu'il faut entendre, « je te donne la capacité de ne plus ». « Je te donne la capacité de changer ». Et encore une fois, il faut vraiment le voir, lui, comme la source de toutes nos capacités. C'est-à-dire que, et vous connaissez la phrase, « sans moi, vous ne pouvez rien faire », ça veut dire ça. Ça veut dire, sans moi, vous êtes radicalement incapable de quoi que ce soit qui peut aller dans le sens de la volonté de Dieu. Bien sûr. J'ai même pas une part de bon en moi. Si je te la donne. Mais sinon, rien. Sinon, tu es dans l'aliénation. Le prince de ce monde, là aussi, ça a un sens. C'est que le monde, l'humanité tout entière, est dans une aliénation qui la rend incapable de faire quoi que ce soit qui satisfasse la volonté de Dieu. Je conclus ce... Je vais peut-être pas en faire beaucoup plus, peut-être 2 sur 4, mais de toute façon on n'ira pas au bout. Il y a une phrase qui me plaît bien, alors qu'on a déjà étudiée, c'est dans ce qu'on appelle le prologue de Jean. À ceux qui ont cru, alors je ne sais pas comment vos Bibles le traduisent, mais en tout cas la traduction la plus, de mon point de vue, la plus exacte, c'est à ceux qui, donc le prologue de Jean, hein, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il, le Verbe, Logos, a donné la capacité de devenir des enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés de la chair ni du désir d'un homme, mais de Dieu. Il nous a donné la capacité. Nous sommes enfants de Dieu par choix, c'est vrai. Par un choix dans la liberté, c'est vrai, mais d'où vient cette liberté ? Ben, de la capacité qu'il nous a donnée de choisir librement, c'est-à-dire de la capacité de faire ou de ne pas faire, mais du coup de faire. Il rend les choses possibles, et il n'y a que lui qui peut faire ça. Et donc, on dépend entièrement de lui. Quand Paul dit... tout est de lui, par lui et pour lui. Vous savez, il cite l'Ancien Testament. Qui a donné à Dieu en premier pour prétendre être payé en retour ? Tout est de lui, par lui et pour lui. Ça veut dire que tout nous vient de Dieu, y compris la capacité de faire ce qu'on fait de bien. Donc on est vraiment libre. Et donc, parenthèse, qui nécessiterait aussi un long discours, on est vraiment responsable. Contrairement aux autres. Bon. Enfin, on va aborder le deuxième quand même. Vous avez le temps ou on s'arrête là ? Et on se voit une autre fois ? Non, allez, vite fait. Enfin, vite fait. Le deuxième qui va prendre la parole, c'est Thomas. Thomas, dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il a un frère jumeau, puisque c'est comme ça qu'on le surnomme. Thomas qui va dire, alors, on va quand même lire le texte, chapitre 14, verset 4. Donc Jésus vient de dire, « Lorsque je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. » Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Alors Thomas, là, hyper pied dans la conversation, il est largué, donc il dit, attends, joker. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment est-ce qu'on pourra en connaître le chemin ? Donc Thomas, il est dans la... J'allais dire dans le flou le plus total, parce que il s'attend à ce que Jésus dise, réponde à la problématique universelle, puisque il a reconnu en Jésus quelqu'un qui en savait plus long que la moyenne sur ce plan. Où est Dieu ? Et comment on entre en relation avec lui ? C'est ça que Thomas attend. C'est ça que l'humanité attend depuis toujours. si vous vous intéressez un tout petit peu à la philosophie, il y a ça depuis toujours. Alors, la problématique est formulée dans des termes différents, mais ça revient toujours à ça. Est-ce qu'il y a un Dieu? Et si oui, où il est? Et puis comment on fait? Enfin, à supposer on réponde affirmativement et qu'on sache à peu près où il se situe, comment est-ce qu'on établit une relation? Parce que l'intérêt, c'est d'établir une relation. Donc, où est-ce que tu vas? Parce que Jésus a eu cette formule très raccourcie, « Je vais au Père ». Ouais, bien sympa, c'est quoi ça, « Je vais au Père » Donc c'est où ça, le Père? Ça se situe où? Où est-ce que tu vas? Et Jésus dit, « Vous savez où je vais ?» Ah bon? J'ai raté un épisode. Thomas, il se dit, il a dû parler aux autres pendant que je m'étais absenté. Et en plus, vous connaissez le chemin. Et donc Thomas, il ne se souvient pas avoir entendu, le chemin c'est ça. Donc il dit, déjà que je ne sais pas où tu vas, si en plus tu dis qu'on connaît le chemin. Et vous connaissez la réponse de Jésus. Et là encore, Jésus se laisse interpeller, parce que c'est important pour lui de poser ça, c'est-à-dire de révéler aux disciples qui, quand même, depuis plusieurs années, ne l'ont pas compris, ou en tout cas pas compris entièrement, c'est que Jésus est encore beaucoup plus que ce qu'il croit qu'il est, que ce que les disciples croient qu'il est, lui, Jésus. Il est beaucoup plus que ça. Dans le meilleur des cas, jusqu'à maintenant, ils l'ont pris, je le disais tout à l'heure, pour un initié, c'est-à-dire quelqu'un qui sait, enfin quelqu'un qui, de toute évidence, a une relation avec Dieu qui est hors norme. Parce qu'effectivement, il l'appelle Père, parce qu'on a vraiment l'impression, quand on le voit vivre, que son degré de relation avec Dieu est très au-dessus de la moyenne. Donc, lui, il peut peut-être nous guider, c'est un maître, et on l'appelle maître, comme ça, c'est un rabbi. Mais il y en a d'autres. Et Jésus va poser le premier jalon d'une révélation, il y en aura un deuxième juste après avec Philippe, mais le premier jalon qui consiste à dire « je suis beaucoup plus que ça, je suis beaucoup plus que quelqu'un qui connaît Dieu et qui est capable de vous montrer le chemin de la relation avec Dieu. Je ne possède pas la réponse à la question comment on va vers Dieu. Je suis la réponse à la question comment on va vers Dieu. Vous m'avez pris jusqu'à maintenant pour un messager. Je vous révèle que je suis le message aussi. C'est toute l'ambiguïté dans le statut de Jésus, le statut du Christ. Et c'est ce qui lui vaudra l'hostilité. C'est que quand on est un tout petit peu raisonnable, on ne prétend pas être à la fois le messager et le message. Parce que sinon, ça veut dire qu'on s'annonce soi-même. Et c'est d'une prétention. La critique des pharisiens à l'égard de Jésus, qui ont vaguement eu l'intuition de ça, c'est de dire, mais alors, en quelque sorte, tu proclames un message au peuple, et ce message, c'est toi. Et Jésus dit, bah oui. Bah ça va les chevilles Et t'es qui pour dire ça en plus? T'es l'un des nôtres? T'as fait les mêmes écoles que nous? T'as été ordonné prêtre? Enfin, je veux dire, d'où tu sors? Je suis. Et à chaque fois, la phrase claque comme un coup de fouet. Je suis. Je suis ce que j'annonce. C'est difficile d'accepter, même quand on vit avec quelqu'un depuis 3 ans, hein, ce qui est leur cas, c'est difficile d'accepter que finalement, ce n'est pas quelqu'un qui donne les réponses, c'est quelqu'un qui est les réponses. Et ça, Thomas n'a pas compris jusqu'à maintenant. On ne sait pas le chemin, mais c'est moi le chemin. D'ailleurs, au passage, ce qui est amusant, ce qui est révélateur, plutôt, c'est que Thomas pose deux questions, deux interrogations. On ne sait pas où tu vas et on ne connaît pas le chemin. Et Jésus ne répond que sur le deuxième point. Il parle du chemin. Il ne dit pas, bah, là où je vais vous expliquer. C'est... Et quand on analyse ça, c'est extraordinairement encourageant. Pourquoi ? Bah, parce que si on parle du chemin, plutôt que de parler du but, c'est que le chemin est fait pour être parcouru. Alors, je m'explique avec un exemple simple. Je parle sous le contrôle de Tahar. Quand vous tapez sur l'épaule d'un musulman dans la rue et que vous lui dites « La Mecque, s'il vous plaît », il va vous répondre, il va répondre à votre question par une autre question. Il va dire « C'est pourquoi ? C'est pour la prière ou c'est pour le pèlerinage ?» Parce que si c'est pour la prière, je vous dis « C'est par là », vous mettez le tapis dans le bon sens, ça y est, le problème est réglé. S'il s'agit juste de vous dire « La Mecque, c'est dans cette direction-là », si c'est juste pour la prière, voilà. Où est-ce que tu vas, Seigneur ? Par là. Maintenant, celui qui entend cette réponse-là, il commence à marcher en direction de la Mecque, il sera mort avant d'y arriver. Par contre, si vous lui répondez « Non, ce n'est pas pour la prière, c'est pour le pèlerinage. » Parce que vous savez, vous connaissez l'islam un peu. Donc vous savez qu'il y a la prière, dans les obligations essentielles de l'islam, il y a la prière, il y a le pèlerinage à la Mecque. Donc, là, il va vous répondre « Passez par là. » Il va vous dire « Alors, moi, j'ai déjà fait le pèlerinage, donc en partant d'ici, il faut aller à la gare de ça, il faut prendre le train pour Paris, ou aller à l'aéroport, prendre un avion pour Paris. Ensuite, vous avez un Paris-Riyad à 17h42. Ça, c'est le chemin. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que bah, vous allez faire quelque chose de beaucoup plus important que la prière quotidienne. Vous allez y aller. Le pèlerinage. Seigneur, où est-ce que tu vas et par où on y va ? Jésus aurait pu dire, bah, je vais par là. Alors commence à marcher vers Dieu. Dieu, c'est par là. Tu commences à marcher et tu seras mort avant d'y arriver. Ça, de toute façon. Et il répond à l'autre question. Le chemin, c'est par là. C'est-à-dire que, effectivement, ce chemin-là a vocation à être parcouru. Donc, effectivement, j'ai vocation à non seulement me rapprocher de Dieu, mais à être avec lui. La bonne nouvelle, c'est ça. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu, il est là, donc à Jérusalem, dans le temple, machin. Bon, mais on est bien d'accord que dans le temple, à Jérusalem, même dans le lieu ultra saint, machin, le milieu du milieu du milieu, quand on a franchi le parvis où on a arrêté les étrangers, après le parvis où on a arrêté les femmes, après le parvis où on a arrêté ceux qui ne sont pas prêtres, et après l'ultime rideau où, si vous n'êtes pas le grand prêtre, vous n'avez pas le droit de rentrer une fois par an, c'est toujours pas Dieu qui est là. C'est toujours qu'une représentation de Dieu. Parce que Dieu, on montre une direction, mais faut pas pousser non plus. Il s'agit pas d'être avec lui vraiment. Là, oui. Là, oui. La bonne nouvelle, c'est... Dieu nous propose d'anéantir la distance qui nous sépare. Viens me voir. Viens me voir et je t'offre le chemin. Je te donne la carte, je te donne l'horaire de l'avion. Je te dis comment. Et j'envoie un messager pour te le dire. Ah bon ? Alors, puisque tu es le messager, vas-y, dis-nous. Eh bien, le chemin, c'est moi. C'est, bon, vous savez peut-être que, et après je m'arrête vraiment, vous savez peut-être que je ne suis pas tout à fait insensible aux questions philosophiques. Et cette problématique-là, je vous disais tout à l'heure, elle est posée, alors elle est posée aujourd'hui dans tous les livres de philo que vous pouvez lire, mais elle est posée depuis l'aube de l'humanité. Où est Dieu? Où est Dieu et comment faire pour établir une relation? Ça a commencé dans... Il y a une démonstration, je suis passionné par Paul qui fait ça très bien. Je vais retrouver. Il y a une démonstration que Paul fait excellemment à partir d'une phrase, d'un épisode de l'Ancien Testament. Donc, je vous disais tout à l'heure, Dieu donne sa loi, vous le savez. Et encore une fois, la problématique de l'humanité est toujours la même, c'est-à-dire où est Dieu et comment faire pour avoir cette relation. La réponse de Dieu dans l'Ancienne Alliance, c'est la relation, vous ne pouvez pas l'initier, vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider, vous en tant qu'humain, depuis la rupture de nos relations, vous ne pouvez pas décider de rétablir la relation en disant, bah, tiens, je vais instaurer une relation avec Dieu. Ça, ce n'est pas à votre portée. Donc, c'est l'inverse qui va se produire. Sinon, il ne se passe rien. Sinon, chacun reste dans son coin, moi dans le ciel, vous sur la terre. Et là, au moins, Dieu dit déjà au peuple d'Israël, c'est moi qui viens vers vous. Sinon, ça ne va pas être possible. Et je viens vers vous avec une parole. Et donc, alors, ils avaient à l'époque les représentations de l'époque. Dans le monde antique, on imaginait la divinité au-delà des grandes étendues. Alors, les grandes étendues, c'est le ciel, donc trop loin pour qu'on le voit, mais au-delà du ciel, enfin, tout en haut dans le ciel, on pensait que c'était... y a Dieu. Et puis, autre grande étendue, la mer, donc tout au bout de la mer, il y a peut-être aussi quelque chose. Et donc, dans le Deutéronome, au chapitre 30, Dieu donne cette précision. Le commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi. Il n'est pas hors de portée. D'ailleurs, ce n'est pas trop loin. Les hommes, si on ne voit pas Dieu, c'est parce qu'il est trop loin. Il n'est pas à portée de regard. Il doit être quelque part trop haut dans le ciel ou quelque part trop loin dans la mer. Ce commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi. Il n'est pas hors d'atteinte ou hors de portée. Il n'est pas au ciel. Parce qu'alors on dirait, qui va monter au ciel pour nous le chercher et nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique? Il n'est pas non plus au-delà des mers. Parce qu'alors on dirait, qui va pour nous passer au-delà des mers pour aller le chercher et nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique? Non, la parole est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et elle est dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. Dieu dit, voilà, je vous donne ma parole, parce que vous ne pourrez pas venir la chercher. Et vous savez comment Paul inscrit, parce que, comme disent les théologiens, le christianisme, c'est le Christ. Il faut vraiment, enfin, tout ramène vraiment à lui. Et quand Paul fait l'analyse de ce texte, donc dans le chapitre 10 des Romains, et c'est tout à fait en rapport avec le « Je suis le chemin », Romains chapitre 10, verset 5, Moïse lui-même a écrit de la justice qui vient de la loi, « L'homme qui l'accomplira vivra par elle. Bon. » Ah, d'accord. « Mais la justice qui vient de la foi » parle de cette manière. Et là, il cite ce que je viens de lire. Il le cite en le modifiant un tout petit peu pour une raison simple, c'est que la problématique a légèrement changé au moment où Paul s'exprime, et on ne dit plus au fond du ciel ou au-delà des mers, on a deux problèmes. C'est, à cette époque-là, c'est Dieu et la mort. Les choses sont légèrement déplacées, la problématique s'est légèrement déplacée. Et donc, on dit toujours, ben, Dieu, il est au ciel, trop loin, trop haut, machin, et puis on a un sacré problème, parce qu'on pense que les morts, ils sont en dessous. Hein. On pense que, à cette époque-là, on pense que le, L'univers est à étage, c'est-à-dire le domaine des dieux, les Grecs aussi croient ça, hein, le domaine des dieux, le domaine des hommes, par étage, vraiment. Le domaine des dieux, le domaine des hommes et le domaine des morts. Et le domaine des morts, il se passe plein de trucs. Hein, et donc, l'étage du milieu, c'est-à-dire l'étage des humains vivants, ignore ce qui se passe en haut, enfin, spécule sur ce qui se passe à l'étage au-dessus, c'est-à-dire chez les dieux, et spécule sur ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire chez les morts. Et donc, Paul se sert de cette représentation-là en disant « La justice qui vient de la foi parle de cette manière. Ne dis pas dans ton cœur, et là c'est la citation, « Qui va monter au ciel ? Ce serait en faire descendre Christ. Ni qui descendra dans l'abîme, c'est-à-dire au séjour des morts. Ce serait faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc ? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est la parole de la foi que nous proclamons. » Si de ta bouche tu confesses que Jésus est le Seigneur, ça c'est le problème avec le ciel, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, ça c'est pour l'étage en dessous, tu seras sauvé. En effet, croire dans son cœur conduit à la justice et confesser de sa bouche conduit au salut. Première fois que j'ai lu ça, j'ai rien compris. J'ai dit, mais attends, ce serait faire remonter, alors, ne dis pas qui montera au ciel, ce serait en faire descendre Christ. Donc je me suis dit, mais Christ, il est descendu du ciel. Je n'ai pas rêvé. Et ne dis pas qui descendra dans l'abîme, ce serait faire remonter Christ d'entre les morts. Il est remonté d'entre les morts. C'est quoi ce... Et en fait, je prenais la question à l'envers. C'est-à-dire que ce que Paul dit, c'est si on dit... Qui va monter au ciel, c'est-à-dire qui va aller régler mon problème avec la divinité, mon ignorance de la divinité, qui va combler la distance entre la divinité et moi, ben, ça veut dire que je ne reconnais pas à Christ cette fonction-là. Je n'accepte pas l'idée que lui l'a fait. Et donc du coup, ben, ça veut dire que, alors que lui, humain, est monté au ciel, ben je fais comme si ça ne s'était pas produit. Je le fais redescendre, du coup. C'est-à-dire, pas je le fais redescendre comme il est descendu la première fois. J'anéantis le fait qu'il soit monté vers Dieu. Et si je dis qui va descendre dans l'abîme, c'est-à-dire qui va régler mon problème avec la mort, parce que c'est de ça qu'il s'agit, eh bien, là encore, je lui nie cette fonction-là. Je nie qu'il l'ait fait, puisque c'est fait, ça. Les deux choses, ça y est, c'est fait. La distance entre le ciel et la terre, ça y est, elle est anéantie. Et le problème de la terre et de l'étage du dessous, c'est-à-dire de l'homme avec la mort, il est réglé aussi. Mais si je me demande encore comment ça va se régler, ben ça veut dire que je n'accepte pas l'idée que lui l'a fait et que lui l'a réglé pour nous. Donc, je le fais remonter d'entre les morts, c'est-à-dire je nie le fait qu'il soit descendu pour régler ce problème-là à ma place. Alors, ça concentre, parce que j'allais dire, tous les problèmes de l'humanité sont réglés en lui, mais c'est vrai. C'est-à-dire, c'est ce qui lui permet de dire... Je ne montre pas le chemin, en tout cas pas seulement. Je suis le chemin, ce qui est extrêmement prétentieux. Si c'était pas vrai, ce serait mais une bouffonnerie absolue. Mais il se trouve que c'est la réalité. C'est la réalité. Alors pour quelque chose dont je ne vais pas parler aujourd'hui, c'est que son interlocuteur suivant qui va lui dire bah écoute, puisque t'es le chemin, d'accord, c'est entendu, t'es le chemin vers Dieu. Bah, alors montre-nous Dieu. Et vous savez qu'il va répondre, cette fois, à Philippe, « Mais Dieu, tu l'as vu, puisque tu m'as vu. » Et donc, ça veut dire que dans ma relation avec lui, qui est encore une fois une relation de proximité, puisqu'on peut lui parler, on peut lui parler comme ça, de la manière la plus simple. Oui, je vais pas attaquer le reste, parce qu'il est... Il est déjà midi. Dans cette relation qui est une relation de proximité, qui est une relation d'intimité, j'ai tout. C'est-à-dire, enfin, je voulais faire un résumé, si j'étais allé au bout de mon propos, j'aurais fait un résumé plus ample, mais sur les deux points simplement que j'ai abordés, j'ai en lui c'est une expression que Paul utilise beaucoup, parce que c'est une expression qu'il affectionne, j'ai en lui la capacité d'être son disciple et de le suivre, et donc de faire la volonté de Dieu, donc je suis libre, j'ai en lui la vraie liberté, et pas une liberté illusoire qui me fait croire qu'avec ma volonté, je vais choisir ce que je veux, alors que devant le choix, si je n'ai pas la capacité, je vais me dégonfler et je vais faire exactement le contraire de ce que je voudrais faire, comme dirait Paul. Donc j'ai ça en lui, il n'y a pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Et j'ai en lui l'anéantissement. Alors, d'abord, commençons par le bas. Prenons l'ascenseur. J'ai en lui mon problème totalement réglé avec l'étage du dessous, c'est-à-dire avec la mort, qui est quand même pour les humains un problème qui est pas tout à fait secondaire quand on y réfléchit. Il a réglé mon problème avec la mort. Ça n'est plus un problème pour moi. Pas parce que je suis plus malin que les autres, mais parce qu'il l'a fait. Et j'ai avec lui cette relation qui me fait considérer que ce qu'il a fait dans ce domaine est absolument parfait. Il n'y a rien d'autre à faire pour régler mon problème avec la mort. Et puis, il a aussi anéanti, parce qu'il est ce chemin, donc non seulement il ne s'est pas contenté de me dire « Dieu, il est là-bas, mais tu pourras marcher toute ta vie ou courir ou voler, tu ne l'atteindras jamais parce qu'il est hors d'atteinte. » Il m'a dit « Non, je te dis pas où est Dieu, ça n'a qu'un intérêt, mais je te dis comment le rejoindre. » Et à la question « comment le rejoindre ?», la réponse, ben, c'est encore moi. Donc c'est encore en lui que cette distance est anéantie. Donc, et encore une fois, les deux autres dialogues aboutissent aussi à ça, celui qu'il va avoir avec Philippe, et celui, le quatrième, qu'il va avoir avec Judas, pas Judas le traître qui est parti, l'autre Judas, parce que vous savez que dans les douze, il y a deux Judas. Bon, donc l'autre Judas, qui va lui dire, mais pourquoi tu te révèles qu'à nous et pourquoi est-ce que tu ne te révèles pas au monde? Bon, mais tout ça va aboutir à, si vous m'avez moi, en fait, c'est comme ça qu'il faut présenter les choses, si vous m'avez moi, vous avez tout. Nous avons tout en lui. Et donc, pour revenir au propos de Tahar tout à l'heure, pendant les fameux trois jours, et peut-être au paroxysme de cette interrogation, au deuxième jour, ils vont se dire certainement, quand même c'était convaincant ça. Quand même c'était convaincant. Et s'il y avait une logique dans tout ça, les choses se mettraient formidablement en ordre. C'est pour ça que il ne s'agit pas de croire n'importe quoi, n'importe comment, puisque le Thomas dont on vient de parler, vous savez ce qu'il va faire après, quand il va entendre parler de résurrection. Il va dire, moi, si je n'ai pas la preuve matérielle de ça, c'est-à-dire, et ça va loin, si je ne mets pas la main dans ses blessures, je ne le croirai pas. D'accord, Thomas, vas-y. Et la réponse de Thomas à la démonstration, ça prouve que tout s'est mis en place, ça prouve qu'il a tout compris, et ça va être le premier à véritablement confesser la divinité de Jésus, quand il va retirer sa main pleine de sang, il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mon Seigneur et mon Dieu, ça veut dire, effectivement, j'ai conscience que tu n'es pas simplement un prophète, que tu n'es pas simplement un type éclairé, que tu n'es pas simplement un éveillé, pour employer le langage bouddhiste. Tu es beaucoup plus que ça. Non seulement tu es le chemin vers Dieu, et pas simplement celui qui montre le chemin, mais le chemin lui-même. Et en plus, tu es Dieu lui-même. Mon Seigneur et mon Dieu. On a tout ça en lui. On devrait sauter de joie tous les matins. En tout cas, moi, ça m'encourage.